à l'ombre du baobab.
Et à l'ombre du baobab aujourd'hui, avec une charmante demoiselle, j'ai envie de dire au grand cœur, Mélissa Morgan, qui a créé l'association Les Patounes du Cœur et qui vient en aide notamment aux chiens maltraités. Mélissa, merci d'être avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour, merci Céline pour l'invitation.
En quelques mots, avant de développer un peu plus, qu'est-ce que Les Patounes du Cœur, Kézako?
Alors, Les Patounes du Cœur, c'est une association créée en Suisse maintenant depuis 4 ans et on vient en aide en fait à un refuge qui se trouve en Espagne, qui sauve les chiens des rues.
D'accord, un refuge en Espagne qui se trouve où exactement?
Dans la région de Valence.
D'accord, donc c'est un refuge un peu comme chez nous, une sorte de SPA où les chiens sont en transit, sont ensuite adoptés ou...
Non, alors pas du tout justement, c'est un refuge qui est privé. Donc les chiens qui arrivent restent là jusqu'à une potentielle adoption, mais il n'y a pas d'euthanasie de convenance par exemple.
D'accord.
Comme dans les Pereira espagnols où il y a plus de 400 chiens et puis ben, chaque mois il faut malheureusement euthanasier. Donc là c'est un refuge privé qui s'occupe des chiens qui sont déposés devant la porte en fait.
Ah ouais.
Ils viennent en aide à certains chiens trouvés dans les rues. Quand il n'y a plus de place, on s'en occupe quand même. Et voilà, on essaye au mieux d'aider tout ce petit monde.
Si, il y a beaucoup de refuges comme ça en Espagne, on ne se rend pas bien compte.
Il y en a de plus en plus. Il y en a à peu près tous les 20 km malheureusement.
Ah oui.
Tout est plein et même si on pouvait tripler l'espace, ça serait encore plein.
Ah oui, donc c'est un vrai problème. C'est quoi le problème à la base? C'est les chiens qui ne sont pas stérilisés ou comment ça se passe?
Exactement, donc c'est les chiens qui sont mis à la porte souvent parce qu'il manque d'argent pour pouvoir s'en occuper. Donc ma foi, les gens les abandonnent. Et puis ces chiens sont ni castrés ni stérilisés, sont voués à eux-mêmes. Donc ils se reproduisent à vitesse grand V. Mmh. Et puis ben, bien sûr, ils essayent de survivre comme ils peuvent dans les rues, en se nourrissant comme ils peuvent. Il y a des gens qui s'occupent de les nourrir, de donner à boire. Et il y a toujours aussi une partie de la population qui n'aime pas vraiment ces chiens errants et puis qui malheureusement les persécute un petit peu trop, quoi.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Et quel est votre parcours à vous, Mélissa? Parce qu'on se demande, vous avez comme ça ce grand cœur, vous vous êtes engagée dans quelque chose, vous avez créé une association. Mais d'où vous vient cet amour des animaux et qu'est-ce que vous faites au final dans la vie, vous?
Alors moi, depuis peu, je suis complètement reconvertie pour travailler avec les animaux. Donc maintenant, je suis assistante vétérinaire, en fait.
D'accord.
Et j'ai toujours aimé les animaux. Au début, j'étais beaucoup dans le monde équin pendant une quinzaine d'années. Et puis, suite à un accident, je me suis tournée vers le monde canin, où j'ai découvert ces animaux à quatre pattes qui sont absolument fabuleux. Et puis, ça m'a donné envie de faire toujours plus, de travailler avec les chiens. Donc, j'ai fait des formations d'éducateur canin, de comportement avec l'animal. Je donne des cours d'éducation. Et tout ça a amené à rencontrer différentes personnes avec différents chiens qui venaient aussi de l'étranger, qui ont été adoptés, qui vivaient dans la rue. Et puis, de fil en aiguille, je commençais de donner un petit peu à droite à gauche pour aider les associations existantes, jusqu'au jour où j'ai découvert Ribercan, le refuge que j'aide maintenant.
Comment vous l'avez découvert?
Complètement par hasard, sur Internet, en me promenant une après-midi pour voir un peu qu'est-ce qui se passait ailleurs. Et je suis tombée par hasard sur le site de ce refuge en Espagne. Et en fait, en allant lire ce qui s'était passé dans ce refuge, ça m'a littéralement... casser le cœur, en fait. Il s'est passé quelque chose d'affreux en 2008 où des gens mal intentionnés sont entrés de nuit dans ce refuge pour faire du mal aux chiens. On va passer les détails. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aide. Je me suis dit, bah, je vais faire un don, je vais donner quelque chose. Et puis, j'ai contacté des gens qui descendaient déjà une fois par année en tant que privé pour amener deux, trois couvertures à la fois, quelques jouets avec ce qu'ils pouvaient remplir dans leur voiture. On s'est rencontrés, on est devenus amis tout de suite, on a vu une dévotion animale en commun. Et puis je me suis dit, il faut que je crée quelque chose en mon nom pour pouvoir parler plus fort, en fait. Et c'est ce refuge-là que je voulais aider. Pourquoi celui-là, pas un autre? J'ai un coup de cœur pour eux. Et voilà, et mon but, c'est d'aider ce refuge-là à pouvoir vivre plus facilement. En ayant assez d'argent, en ayant du matériel, et puis qu'ils puissent un peu se reposer sur nous aussi.
Donc cette association, vous l'avez créée suite à ce déclic, hein, donc vous êtes allé sur Internet, vous avez vu ce qui s'est passé avec ce refuge, ça vous a ému, et vous avez décidé de passer de l'autre côté de la barrière et d'agir.
Voilà.
Ça, c'était il y a combien de temps?
C'était il y a 4 ans.
Il y a 4 ans. Comment on crée une association comme ça? C'est compliqué ou...
Alors, c'était un petit peu l'inconnu. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont être touchés avec ce qui se passe là-bas? J'ai commencé en utilisant les réseaux sociaux, en fait, et puis de créer un support de communication pour faire découvrir ce refuge, qu'est-ce qui se passait, en quoi ça consistait, ce qu'ils font. Et puis en commençant de demander de l'aide aux gens, en disant, ben voilà, on récupère vos volontiers vos anciennes couvertures ou du matériel que vous auriez qu'on pourrait servir. Et de fil en aiguille, en fait, ça a démarré assez rapidement, même plus vite que prévu. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de matériel à la maison en moins de 3 mois. Donc là, j'ai commencé d'organiser le premier voyage pour aller amener tout ça.
Oui, parce qu'au final, ce que vous cherchez donc avec les Patounes du Cœur, c'est du matériel pour venir en aide, pour améliorer un peu les conditions de vie dans ce refuge à côté de Valence, qui s'appelle, vous rappelez-vous ?
Alors le refuge, c'est Ribercane.
Ribercane, voilà. Oui. Donc vous aidez au niveau logistique,
oui,
ce refuge. D'accord, donc vous avez récolté un certain nombre de matériel que vous avez amené une première fois à Ribercane. Là, il y a une première rencontre.
Oui.
Avec ce refuge, vous n'étiez jamais allé avant ?
Non, jamais. Non.
Ok, donc les gens, comment ont accepté votre aide déjà ? Est-ce qu'ils ont accepté volontiers ou est-ce que c'était un peu vexé ou comment ça s'est passé ?
Alors, c'est une très bonne question. La première fois, c'était un petit peu bizarre, entre guillemets, parce que nous, on arrive là-bas avec un camion plein, débordé de couvertures, de nourriture, de jouets. On veut faire une bonne action. On se dit, mon Dieu, les pauvres malheureux, ils n'ont pas de dodo pour dormir la nuit. Donc on arrive là-bas un peu comme des sauveurs. On se dit, voilà, on amène tout ça. C'est pas forcément dans l'attente d'une reconnaissance, mais on est content de ce qu'on a fait. Et de l'autre côté, ils sont contents, bien sûr, que quelqu'un vienne aider. Mais la première approche est un petit peu sur la retenue, parce qu'ils se disent, ok, ils sont descendus, ils ont fait 1500 kilomètres. Est-ce que c'est juste une fois ou est-ce que c'est des gens sur qui on pourra compter? Ouais. Donc c'est vrai qu'au départ, il y avait un peu les deux sentiments, hein, entre guillemets, les petits Suisses qui descendent faire leur bonne action. Mm-hmm. Et finalement, on s'est très très bien entendu très vite. Il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été partagées, des amitiés qui se sont développées. On est comme une grande famille, on est en contact tous les jours maintenant, par téléphone, par réseaux sociaux, etc. Donc ils ont compris assez rapidement qu'on était là et puis qu'on n'allait pas les lâcher. Et c'est pas parce qu'on est à 1500 km qu'on pense pas à eux tous les jours. On est là pour les aider.
Et comment il est ce refuge Ribercane ? J'essaie d'imaginer un petit peu. C'est vrai qu'on connaît nos SPA chez nous, on voit un peu comment est la structure chez nous. Mm-hmm. Là, c'est pas une SPA, comme vous l'avez dit, on n'est pas dans l'intention de faire adopter des chiens, on est plutôt dans l'intention de garder des chiens jusqu'à la fin et de répondre à leurs besoins. Donc ça ressemble à quoi ce refuge ?
Alors, en fait, à la base, pour la petite histoire rapidement, c'était justement une de ces perreras espagnoles, donc un de ces fameux refuges fourrières, comme on peut dire. Mm-hmm. Et puis, il y avait une bénévole, Carmen, qui est une dame absolument exceptionnelle, qui travaillait là. Et du jour au lendemain, ils ont décidé de tout fermer parce qu'il n'y avait plus de place pour s'occuper de ces chiens et ils allaient euthanasier tout le monde.
Oh.
Cette dame fabuleuse a pris 100 chiens dans sa maison.
100 chiens dans
100
sa
chiens,
maison.
Voilà, sur 200. Donc, elle a pris ce qu'elle a pu.
Ah, c'est très bien.
Et elle a trouvé un terrain vague au milieu des plantations d'oranges. Et puis, elle a commencé de créer ce refuge Ribercane privé en commençant par mettre du treillis autour. Et puis, petit à petit, d'année en année, à délimiter des zones, à construire un petit peu à droite à gauche. Et maintenant, c'est un refuge caché au milieu des orangers. C'est vrai qu'on tient à garder l'emplacement secret pour éviter justement des personnes malveillantes de venir voler des chiens, parce que ça arrive.
Ah oui.
Ou voler du matériel. Et voilà, les chiens sont gardés là, et puis c'est toute une équipe de bénévoles, hein, ça il faut être conscient, de gens qui travaillent à côté ou qui sont aux études, qui se relaient tous les jours pour aller nourrir tout ce petit monde, nettoyer, soigner, amener chez le vétérinaire.
Voilà. C'est spécial cette notion de cacher carrément un refuge, ouais. Alors qu'effectivement, on se dit plutôt que c'est quelque chose qu'il faut montrer, que les gens doivent savoir que c'est là, qu'on peut venir et tout, mais...
Alors, ils font des manifestations, elles font des stands dans la région, justement, beaucoup pour sensibiliser. Elles vont dans les écoles pour montrer aussi aux enfants comment est-ce qu'il faut réagir quand on trouve un animal dans la rue, qu'un animal, ça se maltraite pas. Mm-hmm. L'animal peut vivre seul dans la rue, il faut juste le laisser tranquille, on n'est pas obligé de lui faire du mal.
Ouais.
Donc, elles sensibilisent tout ça. Maintenant, le lieu du refuge en lui-même est gardé secret, effectivement, parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui sont contre, qui comprennent pas pourquoi on aide les chiens errants. Et qui veulent venir faire du mal ou les voler pour faire des chiens de combat ou des chiens de type chien de chasse, par exemple, ou simplement voler du matériel.
Oui, comme ce qui s'était passé donc en 2008, hein, ce qui a créé chez vous, donc cette envie de créer une association. Vous parlez de bénévoles, de femmes surtout ?
Oui, essentiellement.
C'est essentiellement
oui.
Les femmes.
Oui.
Combien sont-elles pour œuvrer
Alors, de fixe, ils sont 18.
D'accord.
Et à côté, il y a encore une dizaine de bénévoles un petit peu partiels, si on peut dire, qui viennent de temps en temps donner un coup de main. Mais fixe, ils sont environ 18.
18 bénévoles.
Ouais.
Mélissa Morgan, je vous propose une petite pause musicale avant de continuer cet entretien. Souvenir, Red Hot Chili Peppers, ça vous dit Under the Bridge ?
C'est parfait.
Allez, on y va. pour À l'ombre du baobab avec Mélissa Morgan, fondatrice de l'association Les Patounes du Cœur. Alors Mélissa, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes de chiens maltraités et abandonnés en Espagne. Et Dieu sait que c'est un pays que j'aime et que j'adore même. Mais c'est vrai qu'on entend et on voit beaucoup de choses malheureuses concernant les chiens dans ce pays.
Exactement, c'est malheureux, c'est triste. Maintenant, il ne faut pas sacraliser non plus, il n'y a pas que l'Espagne. Il y a beaucoup de pays, il y a aussi la crise qui fait que malheureusement les gens n'ont plus forcément de quoi s'occuper de leurs animaux. Et puis les mettre dehors. Maintenant, comme partout, on a toujours des gens mal intentionnés qui n'ont rien d'autre à faire que de s'amuser à faire du mal aux animaux, malheureusement.
Ouais, ça, c'est un peu dans tous les pays. Hein.
Je pense que c'est un peu partout pareil.
Vous qui connaissez bien l'Espagne, vous me disiez tout à l'heure quand vous allez en Espagne, que vous traversez, voilà, vous êtes sur l'autoroute, à chaque quart d'autoroute, vous vous arrêtez, vous regardez s'il y a des chiens errants, s'il y a quelque chose à faire.
Oui, alors ça, c'est ben voilà, maintenant qu'on connaît, qu'on sait ce qui se passe, à chaque fois qu'on descend, on a toujours un sac de croquettes devant du camion. Et puis quand on fait des arrêts pour remettre l'essence, on fait le tour de la station. On vérifie qu'il n'y ait personne de caché à droite ou à gauche. Et puis souvent, il faut savoir que ces chiens-là ont peur de l'homme. Donc finalement, c'est ce qui les sauve aussi. Ils ne s'approchent pas forcément. Donc on laisse à manger sur place et on repart. Maintenant, c'est sûr que si on doit tomber sur un pauvre malheureux, on ne va pas le laisser là, on va le prendre avec.
Vous le prenez avec pour l'amener au refuge.
On va le soigner, c'est clair.
Combien de fois par année vous descendez à Rivercane?
Alors au mieux, une fois. En général, on essaie de descendre deux fois en camion. Et on a un troisième voyage en voiture au mois de mars.
D'accord, donc en camion, donc vous avez tout le matériel qui vous a été donné, que vous transportez avec vous.
Oui.
Ça nécessite une sacrée organisation, tout ça, parce qu'un camion, on n'a pas forcément un camion comme ça.
Exactement, donc c'est un petit peu justement maintenant le côté logistique de la chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré tout ce matériel, parce qu'il faut savoir que sur place, les gens ne donnent pas forcément. Mm-hmm. Donc ça peut sembler aberrant de récolter une tonne de couverture ici. On se dit, mais pourquoi pas les trouver là-bas? Parce que là-bas, les gens ne donnent pas forcément. Donc ils vont donner trois couvertures pour 200 chiens. C'est pas assez. Donc, on loue un camion avec un sponsor qui nous fait un prix d'amis, heureusement. Et on charge tout ça et on descend. Donc, ça a un coût, la location du camion, les frais d'essence, le péage. Donc, il faut savoir qu'un voyage pour amener du matériel sur place, ça nous coûte environ 2500 francs par voyage.
Quand même.
Voilà.
Donc, les 2500 francs que vous allez essayer de récolter pendant toute l'année.
Exactement.
Avec l'association. Donc, vos actions des Patounes du Cœur, si on résume un petit peu tout ça, vos actions, elles se résument à quoi?
Alors, essentiellement, récolte de matériel. Beaucoup, couverture, drap, linge. Ça, c'est vraiment la priorité parce que on peut pas les laver sur place. Hein. C'est un mythe. On peut pas laver les couvertures, les faire sécher, les repasser. Avec plus de 200 chiens, c'est pas possible. Clair. Donc, là, il y a beaucoup de tournus. Donc, on en a vraiment besoin, surtout pour l'hiver. Après, on récupère tout matériel qui peut être utilisé dans un refuge, que ça soit et pour les chiens et pour les humains, les bénévoles, et pour faire du bricolage, pour améliorer les enclos, les niches, etc. Maintenant, côté nourriture, si les gens nous donnent, on va prendre volontiers. Maintenant, c'est pas ce qu'on a le plus besoin. Faut savoir qu'on subvient à leurs besoins financièrement. Donc, bien sûr que tous les chiens mangent tous les mois. Ils vont pas attendre sur nous pour qu'on descende trois paquets de croquettes. Donc,
c'est sûr.
Voilà.
C'est sûr. Donc, on imagine. Alors, couverture, drap, linge, laisse, collier.
Voilà,
harnais,
tout ce qui est accessoires pour chiens.
Croquettes.
Croquettes en dernier plan.
Jouets. Médicaments, jouets. Éventuellement.
Médicaments aussi, oui, bien sûr. On
D'accord.
prend. Tout ce qui est produits désinfectants, on prend aussi, que ce soit pour l'animal ou pour laver justement le refuge. Ça, on prend. Tout ce qui est bottes de pluie quand c'est inondé. Parce qu'il faut savoir qu'il pleut rarement en Espagne, mais quand il pleut, ça monte vite haut. Donc, nos bénévoles sont malheureusement pas bien équipés.
Je crois que vous leur avez offert une pompe, d'ailleurs.
Oui, exactement.
Pour évacuer l'eau en cas d'inondation.
Pour évacuer l'eau, parce qu'avant, il fallait à chaque fois faire venir les pompiers, ce qui engendrait des coûts. Donc, il y a deux ans, on leur a acheté une pompe d'évacuation d'eau, ouais, effectivement. Ouais.
Ce qui est pas mal. On vous voit aussi très active sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Il y a souvent des photos de ces chiens qui arrivent au refuge. Parfois, on se prend même d'affection. Hein. On a envie de suivre, de savoir ce que devient ce chien qui est arrivé pas toujours dans un état très heureux. Quoi. Est-ce qu'on peut adopter ces chiens ou ça se fait pas?
Alors, pour le moment, les Patounes du Cœur, on tient à ne pas s'engager dans les adoptions grand public, on va dire. C'est-à-dire que c'est une responsabilité énorme que de remonter un chien d'Espagne pour le donner à quelqu'un ici. Aujourd'hui, j'ai pas la force émotionnelle de m'occuper de ça. On a 4 chiens qui sont remontés, dont la mienne. Sinon, c'est pour des gens de la famille ou des amis très proches où on sait où ils vont. On a un suivi de ces chiens-là. Maintenant, j'ai pas envie de m'engager dans quelque chose et remonter 10, 20 chiens par année. Mmh. Le problème, c'est que prendre un chien sur une photo parce qu'il a l'air gentil, tout beau, un peu malheureux, c'est bien, mais une fois qu'il arrive ici, qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal? Ouais. Moi, j'ai pas les moyens de récupérer ces chiens chez moi. Sinon, dans 5 ans, je pense que ce sera un vrai refuge chez moi aussi. Donc, c'est juste pas possible. Donc, c'est vrai que pour le moment, on prône pas les adoptions. Les adoptions se font en Espagne, c'est géré par le refuge lui-même.
Voilà, donc si vraiment on a un coup de cœur énorme, on peut toujours aller au refuge,
alors,
aller
rencontrer le chien. Alors, bien sûr, on peut prendre sa voiture, faire 15 heures de route et puis aller le chercher.
Mais ça ne passera pas par les patrons
de
cœur.
Non.
Ok, par contre, vous prenez les parrainages.
Voilà, alors nous, on prône les parrainages pour nous aider justement à récolter des sous, pour entretenir tout ce petit monde. Donc, on peut parrainer un chien, c'est 10 francs par mois. Mmh. Et puis, ça permet de couvrir les frais alimentaires des chiens et tous les frais vétérinaires de base, donc castration, vaccination, stérilisation, toutes ces choses-là.
Ce qui n'est pas énorme, 10 francs par mois, c'est vrai qu'on peut facilement s'engager. Après, qu'est-ce qu'on a en retour? Est-ce qu'on reçoit des photos, des nouvelles? Comment ça se passe?
Voilà, alors on reçoit des photos, bien sûr, on diffuse le plus possible sur les réseaux sociaux les nouvelles des chiens. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plus de 200 chiens, donc il y a en général 4-5 bénévoles sur place par jour, l'équipe du matin, l'équipe du soir. Donc il faut nettoyer tous ces enclos, donc on n'a pas forcément le temps de faire des photos tous les jours, donc quand on en reçoit, on les diffuse. On met le nom du parrain et de la marraine avec, comme ça les gens peuvent voir les photos. Ensuite, quand on n'a pas vu son petit filleul depuis un moment, faut pas hésiter à me contacter pour redemander des nouvelles. Mais pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Et quand on s'engage pour combien de temps?
Alors c'est comme vous voulez, il suffit juste de nous prévenir un mois avant si vous souhaitez arrêter.
D'accord. Bon, ça c'est pas mal du tout. Je crois que vous avez également commencé à organiser des pique-niques pour récolter des fonds.
Oui.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, c'est parti, l'idée l'année passée d'organiser un pique-nique pour rencontrer les parrains et les marraines que finalement on connaît que par réseaux sociaux et qu'on n'a jamais vus. Et on s'est dit l'année passée, on va organiser un pique-nique et ça a très très bien fonctionné. Donc on l'a refait cette année, on va le refaire chaque année. Et c'est l'occasion de rencontrer ces gens qui nous aident d'une manière ou d'une autre, qu'on n'a jamais rencontré de visu, et puis de tous se rencontrer à la même place, de mettre un visage sur un nom et puis de passer un bon moment. Tous ensemble.
Un pique-nique qui a lieu à quel
point? Il a lieu à Erlar, la région du Zéland.
D'accord.
Où on loue une grande tente au milieu d'un pré, et puis les chiens sont bienvenus, donc c'est sympathique de retrouver tout le monde.
Et c'est au mois de...
C'est au mois de fin juin, début juillet en général.
Fin juin, début juillet. Ouais. Ah, donc on vient de rater.
Oui, il vient de passer, ce sera pour l'année prochaine.
Ok, avant d'aborder une dernière partie d'entretien, quelques dernières petites questions, je vous propose une autre pause musicale. Spooks, Things I've Seen. Vous vous souvenez de ce souvenir?
C'est parfait.
Ouais.
À l'ombre du baobab.